Bienvenue à cette première table ronde du congrès du SNAPCGT, comment améliorer le quotidien des artistes auteurs, avec Vélémina Huguet, juriste à la SAIF, Fabrice Gertz, salarié de l'URSSAF Limousin, et Colline Bourret pour la LFI Union Populaire.
Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste auteur, l'artiste autrice au travail, compose et se confronte au quotidien, notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 3. Convention collective, URSSAF et témoignages.
Autre question un peu provoque et que je pose à vous trois, qui répond qui veut. Si je vous dis le mot convention collective, est-ce que l'on peut imaginer, parce que la question c'est comment améliorer le quotidien des artistes auteurs, la question posée à cette table ronde. Est-ce qu'on peut mettre en face le mot convention collective? Est-ce que ça s'applique à ce secteur professionnel? Est-ce que ça c'est voilà.
Bah moi je veux bien faire une première réponse, mais je ne sais pas si on peut avoir une convention collective comme on a dans la fonction publique, un an d'expérience, tel salaire minimum, 2 ans d'expérience, tel salaire minimum. Ça, je ne sais pas si... Enfin, c'est des choses à inventer et c'est des choses à voir. Et je pense que, pour le coup, le régime de l'intermittence peut beaucoup apprendre aussi sur comment on rémunère le travail discontinu et comment on rémunère le temps de la création. Mais par contre, en dehors d'une convention collective, il y a vraiment quelque chose qui est les droits sociaux. Et une convention collective sur la rémunération, non, mais une convention collective sur les droits sociaux et le fait que... quels sont les congés maladie? Est-ce que quand on doit répondre à une commande publique et qu'on a un enfant qui est malade et qu'on est un peu en retard sur les délais, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le salariat classique, on a les congés enfant malade, on a les congés en cas de décès, on cotise aussi, enfin, si on est une femme artiste auteur et qu'on tombe enceinte et qu'on veut prendre 6 mois pour s'occuper de son enfant à la naissance, ce qui est parfaitement normal, quel revenu pendant ces 6 mois, pareil pour les pères, parce que c'est pas juste les femmes qui doivent prendre des congés de parentalité, mais du coup, enfin, oui, il faut encadrer et il faut avoir des conditions et des obligations de rémunération pour l'ensemble des personnes qui relèvent du statut d'artiste auteur.
Alors convention collective, j'ai posé la question aussi sur la question droit d'auteur, c'est-à-dire moi, je viens de faire une superbe expo au musée des Beaux-Arts d'Amiens, ville de... Comment ça s'appelle? Emmanuel Macron, c'est ça. Zéro centime. Il y avait des affiches dans toute la ville, etc. Zéro centime. On m'a offert 10 cartes postales qu'il mettait en vente dans la boutique. Voilà, on m'a renvoyé un petit paquet avec 10 cartes postales. Alors, convention collective, comment est-ce qu'on peut essayer, là aussi, de penser les droits d'auteur imposés que partout en France, sur tout le territoire, dans tous les lieux institutionnels, etc., on paye enfin, quand un artiste expose, qu'on paye enfin le droit de présentation publique.
C'est un travail de très longue haleine. Parce qu'en fait, d'une manière générale, la présentation publique, la diffusion publique des œuvres, ça a été, d'une certaine manière, le premier des droits d'auteur le plus difficile à obtenir. Par exemple, historiquement, si on prend l'exemple de la SACEM, sur la création, la petite histoire derrière la SACEM, c'est le fait que un auteur est allé dans un café boire une eau sucrée et a entendu qu'on jouait une musique dont il était le compositeur. Il a refusé de payer sa consommation en disant « mon œuvre a été diffusée dans le dit café, mais je n'ai pas été payé ». Et on lui a donné raison. Et cet auteur, c'est lui qui est à l'origine de la création de la SACEM. Parce que d'une certaine façon, de la même façon qu'on va avoir une exposition, les œuvres sont diffusées auprès du public, là c'était la musique qui était jouée auprès du public, et c'est une forme d'exploitation du droit d'auteur, à savoir droit de présentation publique. Et paradoxalement, ce qui est assez fou, c'est que c'est le droit le plus difficile à percevoir et à faire comprendre aux personnes, en fait, tout simplement, que c'est une forme d'exploitation de l'œuvre. Il y a même dans certains droits européens le fait que il n'y ait pas vraiment de droit de présentation publique partout, juridiquement partout en Europe, il n'est pas considéré de la même façon. Et en fait, pendant très longtemps, le faire comprendre que présenter une offre au public est une forme d'exploitation qui mérite une autorisation et qui peut être délivrée contre rémunération, c'est déjà une très très grosse difficulté. Donc là-dessus, il y a eu des améliorations, parce qu'on part de très très loin. Typiquement, le ministère de la Culture a mis en place un minimum en matière de droit de présentation publique, des barèmes minimums, qui ne sont pas obligatoires. Ils peuvent l'être pour certaines structures publiques s'ils bénéficient de certaines rémunérations de la part du ministère, ce qui déjà implique une amélioration tout simplement de l'économie en fait un peu générale, parce qu'en fait ça suppose d'inverser totalement la logique. Parce que pendant très longtemps, pour la majorité des organisateurs d'un événement culturel, on pense à payer l'imprimeur sur lequel on va imprimer les tirages, on va penser à payer le gardien qui va être là, mais on ne va pas penser à payer l'auteur dont les œuvres vont être exposées. Et en fait, c'est devoir remettre en question toute la logique sur l'organisation d'un événement culturel. Et nous, on accompagne ce mouvement. Typiquement, à l'ASF, en tant que société d'auteurs, on reverse ce qu'on appelle de l'action culturelle, c'est-à-dire qu'on peut subventionner des manifestations au titre de la diffusion des œuvres des auteurs des arts visuels. En fait, c'est un quart de la rémunération pour copie privée qui doit être reversée sous cette forme. Et parmi les conditions qu'on va regarder, typiquement, dans l'action culturelle, c'est le fait que des rémunérations soient prévues pour les auteurs. Et ça, déjà, le fait de poser la question, le fait de le revendiquer, parce qu'il y a de plus en plus de festivals qui vont payer ce droit de présentation publique, mais on partait quand même de très très loin et de zéro. Maintenant, on commence à inverser la logique. Mais ça a pris énormément de temps. Et ça fait partie des revendications toujours le plus appuyées, et puis aussi en négociation. Moi, en tant que juriste dans le service de gestion individuelle, mon travail, ça va être de négocier pied à pied du droit de présentation publique pour un auteur. Donc typiquement, je vais aller me dire c'est tel montant en fonction des éléments applicables pour ce type d'exploitation, pour ce type d'exposition. En droit français, la présentation publique est une forme d'exploitation du droit d'auteur. Pour rappeler de base, le droit d'auteur, c'est les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux, ce sont le fait de reproduire et de représenter une œuvre. Pour reproduire et représenter une œuvre, il faut demander l'autorisation préalable au titulaire de droit, c'est-à-dire à son auteur. Et ce dernier peut demander en contrepartie une rémunération. C'est ça qu'on appelle le droit d'auteur. Dès lors qu'on fait un acte d'exploitation sans autorisation préalable, c'est un acte de contrefaçon. Donc oui, juridiquement, le droit de présentation publique est une forme d'exploitation du droit d'auteur, c'est son droit patrimonial, mais en pratique, ce qu'il faisait, c'est que ces exploitations étaient autorisées à titre gracieux. Et donc c'est un rapport de force qu'il faut inverser entre les auteurs et leurs diffuseurs pour leur dire non, c'est pas gratuit, c'est payant, c'est tel montant.
Non mais rassure-toi, le musée d'Amiens, alors que toutes les affiches étaient tirées, les socles étaient faits, etc., ils m'ont téléphoné 15 jours avant le vernissage pour me demander l'autorisation, parce que tout à coup il y a dû y avoir quelqu'un qui s'est dit oula, il faut peut-être lui demander l'autorisation quand même. Mais j'ai pas été invité au vernissage, hein, rassure-toi. Enfin bon, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, justement nous avons des personnes qui sont tout à fait expertes ici en droit d'auteur, en droit social. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent aussi raconter un bout de vie comme ça, qu'ils se sont confrontés à des problèmes ou des questions qui peuvent venir. Donc prenez la parole, je vous cède volontiers le micro.
Oui, c'est pour livrer une anecdote en mode crédule qui se fait prendre les doigts dans la tapette. Moi, déjà, d'une part, quand j'ai commencé mes études d'art plastique, j'avais pas du tout connaissance de tout le réseau, mais j'avais envie d'être à la Maison des artistes. On était en 95, je suis allé à la maison des artistes et effectivement, ils m'ont dit « Ah ouais, mais si vous ne gagnez pas 200 000 francs, mon bon garçon, il va falloir rentrer chez vous. » Donc je suis rentré chez moi, je suis retourné les voir qu'en 2010. Et en 2010, j'ai été heureux d'être inscrit et de m'apercevoir qu'effectivement, il n'y avait plus de seuil pour vraiment s'inscrire, puisque quand on n'atteignait pas le seuil, il disait qu'il réexaminait les droits, mais en fait, il vous donnait la possibilité d'être à la maison des artistes de façon automatique. Et cette question de réexamen du seuil, elle réapparaît très fort avec l'URSSAF et je ne sais pas où elle nous mène. Je ne sais pas si elle ne va pas faire qu'on perde très facilement nos droits à l'avenir. Et sinon, sur la question de faire évoluer les mentalités, moi, en 2018, j'ai fait une carte de vœux pour une association qui m'a dit « Tu vas voir, c'est super, on est en rapport avec... Une députée du secteur de la Courneuve-Stains, ça dira certainement à beaucoup d'entre vous. Donc j'ai fait la carte de vœux et l'association en question l'a donnée à la députée en lui disant « tu peux l'utiliser ». Et moi je m'attendais naïvement, étant donné le background de la députée en question, à ce qu'elle revienne vers moi et à ce qu'elle m'achète l'original ou qu'elle me dise quelque chose concernant le droit à la diffusion avec son enveloppe de parlementaire. Et la seule chose que j'ai eu comme commentaire quand je l'ai rencontrée, au vœu du jour de l'an où j'ai été bien mis en évidence et où j'ai lu un poème qui accompagnait l'œuvre et où l'art, c'était magnifique, ça a été... Tu sais, tu peux être content, hein, je l'ai diffusé à 3500 personnes de mes contacts qui sont très très importantes. J'ai toujours l'original si ça intéresse quelqu'un.
Sur l'URSSAF et le seuil, revenons sur la question. Excuse-moi,
mais... S'il y avait une grille d'appréciation de ce à quoi on a le droit quand on est diffusé à 3500 personnes très importantes qui reçoivent une carte estampillée Assemblée nationale, moi je suis assez preneur.
Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle des barèmes. Nous, typiquement, dans notre travail de tous les jours, quand on intervient pour négocier des droits pour le compte de nos auteurs, on va demander au diffuseur quelles sont les exploitations que vous allez faire. Donc typiquement, j'imagine que c'est une newsletter, et ben, on a un barème newsletter. En fonction du nombre de personnes qui ont accès à cette newsletter, c'est tel montant. Et donc dans ces cas-là, on dit, vous souhaitez faire ça, c'est tel montant, et on envoie la facture, on perçoit la somme, et on la répartit à l'auteur, avec déduction de ce qu'on appelle une retenue statutaire, ce qui nous permet de fonctionner, qui en matière de gestion individuelle est de 15%.
Et alors sur l'URSSAF, question angoissée, est-ce que l'URSSAF va remettre les seuils que l'on a connus effectivement dans les années 90 ?
Je ne pense pas, parce que il y a effectivement dans la loi de finances, il y a un seuil qui avait été mis en place et tout ça qui est toujours... Moi, j'ai pas de contact avec l'URSSAF du Limousin. Je suis à l'URSSAF d'Île-de-France. Maintenant, ce qui est une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau des cotisations, vous avez le même pourcentage que vous aviez à la Maison des Artistes. Sauf qu'à l'URSSAF, le pourcentage, il n'est pas de 17% ou 20% maximum. C'est au-dessus. Ça, c'est une question aussi à soulever. C'est important. Parce que quand je vois... Et j'ai eu des retours parce que j'ai des artistes qui m'ont appelé. Hein, j'ai toujours des contacts d'artistes qui m'appellent en me disant « Enfin oui, j'ai reçu 4 trimestres à payer d'un seul coup en un mois et demi. » Ouais, j'y attends, il y a un problème là. Nous, à l'URSSAF d'Île-de-France, on n'envoie pas 4 trimestres d'un seul coup. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. La chose, on le sait très bien. Malgré les retours d'artistes que j'ai, qui reçoivent, qui envoient leur dossier, qui téléphonent, qui essayent d'avoir des renseignements, qui n'ont pas leurs renseignements, ou alors c'est erroné, ou alors... Il y a un problème, il ne faut pas leur en vouloir, ils n'ont pas été formés. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, malheureusement c'est ça. La seule chose, c'est que nous, au niveau du transfert, on avait proposé à l'URSSAF, Caisse nationale enseignement à cause, comme je vous l'ai dit précédemment, de former, que ce soit les agents AGSA ou MDA, d'aller former les agents du Limousin. On n'a pas eu de réponse ou un refus. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. C'est pour ça que, comme Pierre l'a dit précédemment, en 2015, on sentait, parce qu'on avait la première alerte, c'était la fusion AGSA-MDA. on n'en voulait pas, ça n'a pas été fait. Ensuite, on s'est dit, ça sent pas bon. Il y a voilà. Donc on a commencé à travailler sur ce projet pendant 5 ans, et on savait très bien qu'un jour ou l'autre, ça allait tomber. Malheureusement, c'est sous. Et puis, il y a aussi le problème de la GSA. Je pense que tout le monde a entendu parler. Le problème de la vieillesse qui n'était pas appelée pendant des années et des années, ça a impacté 190 000 artistes à la GSA. Voilà, donc tout ça qui s'est embriqué, et ça a fait que le régime il est parti là-bas. Mais pour répondre à votre question, le seuil, ça sera celui qui a été décidé. Maintenant, après, je ne sais pas au niveau des tutelles s'il y aura une augmentation ou pas, je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, au niveau du seuil, la loi de finances est passée avec un seuil, point barre. En gros, circuler, il n'y a rien à voir.
Non, je voudrais revenir quand même sur souligner quand même pour l'histoire que on nous a montré la Maison des Artistes comme les vilains petits canards bien souvent, au ministère de la Culture et à la direction de la Sécurité sociale. On était, excusez-moi l'expression, les chieurs, quoi. En fait, on était le lieu où il y avait du débat et où les artistes débattait avec le personnel, avec la direction. Alors, quand on débat, ben on débat, quoi. On était, des fois, il y a eu de la houle. Bon, d'accord. Mais c'est les conditions du débat, dans les conditions dans lesquelles il se passe, il y a eu de la houle, mais n'empêche que notre régime, on est parti, il était les trimestres, alors mis à part des exceptions personnelles, des exemples, il passe toujours à travers les mailles du filet, quelques exemples, contre-exemples. Mais en gros, les gens sont partis avec leur trimestre de retraite. Le travail était fait. Les commissions étaient pour vérifier le champ de professionnels et se tenaient. Enfin, tout fonctionnait. Et effectivement, à la finale, on a un petit peu les boules de s'apercevoir que le gros problème, il était en fait à la GSA, quoi. Où là, notamment les photographes, etc., se retrouvent bien souvent sans les trimestres de retraite. Ils arrivent à 62 ans ou 63 ans, ils veulent faire jouer leur retraite, puis on leur dit, attendez, il est où votre dossier? Elle est où votre... Parce qu'il faut savoir que la GSA recevait de toutes les grosses sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM, etc., des gros chèques. Poum! Alors, il y avait 150 000 euros qui tombaient même... Qu'est-ce que je dis, 150 000, c'était 100 millions... Voilà, syndicat du livre, etc. Ils payaient des gros chèques en une fois. Mais à qui? Ils n'ont jamais fait le travail d'aller chercher à qui est-ce qu'il y avait... Quels étaient les gens qui étaient derrière? Joël, toi qui es photographe de presse, qui était derrière? Qui avait publié des photos, donc qui ouvrait des droits?
Mais à la GSA, il y avait même des moments où on était obligé de passer par la SA pour diffuser des photos. Et la GSA, il n'y avait pas de retour. C'était n'importe quoi, quoi.
C'était un organisme donc, de collecte. Il collectait l'argent, mais il n'avait pas de fichier auteur. Ce que nous avons eu tout de suite au départ à la Maison des Artistes, tu avais Tartampion, etc. Et encore une fois, c'est le système déclaratif. Tous les ans, on faisait notre déclaration, etc. On envoyait, etc. Et je pense que ça, c'est quand même une pierre angulaire importante. Vas-y, tu veux intervenir. Alors, je ne sais pas si l'URSSAF fera ce travail.
Non, je vais revenir sur le déclaratif. Parce qu'en fait, ce qui se passe à la Maison des Artistes, vous le savez, ceux qui étaient inscrits à la Maison des Artistes, on vous envoyait le dossier, vous nous le remplissiez. Au retour, on enregistrait les revenus et vous avez vos appels de cotisation. Tandis qu'à l'URSSAF, c'est du provisionnel. C'est pas la même chose. Il vous annonce un chiffre, paf, on envoie l'appel de cotisation, et hop, terminé. Tandis qu'à la Maison d'artiste, non. Et je veux venir aussi par rapport à la commission professionnelle, mais il y avait aussi la commission d'action sociale pour aider les artistes en difficulté, et il y avait énormément de dossiers. Ceci étant dit, maintenant, c'est l'URSSAF du Limousin qui s'en occupe, je ne sais pas comment c'est géré. Ah, écoute, c'est la Maison d'artiste qui le gère? Ah, autant pour moi. Donc...
Oui, alors la commission d'action sociale était à l'origine composée de membres des deux conseils d'administration AGSA et Maison des Artistes. C'était une commission commune aux deux organismes et qui était composée de représentants d'auteurs et de diffuseurs. Donc, comme il n'y a plus de conseil d'administration, ce qui s'appelle maintenant commission d'action sociale, parce que le dispositif existe toujours, mais apparemment il est un petit peu tombé en quenouille. Ce qui s'appelle commission d'action sociale, en fait, c'est l'administratrice définitivement provisoire ou provisoirement définitive de la GSA Maison des Artistes, qui est elle-même l'incarnation de la commission, c'est-à-dire que grosso modo, deux demi-journées par an, elle s'appelle commission d'action sociale et elle traite des quelques dossiers qui sont arrivés, puisque beaucoup moins d'artistes font appel maintenant à cette commission qui existe toujours. Moi j'avais fait la demande j'ai fait la demande à un moment, 2020, enfin pour mes revenus 2020, j'ai fait la demande en 2021, j'ai eu une première réponse, un accusé de réception, me disant nous avons bien reçu tralala, et vous aurez la réponse quand la commission se réunira. Je vous rappelle que la commission ne se réunit plus depuis 2014. Donc la commission, c'est-à-dire une demi-heure de l'emploi du temps de l'administratrice provisoire, s'est réunie quelques 6 ou 9 mois plus tard, et j'ai eu la réponse à ce moment-là, voilà. Mais la réponse était positive, donc le dispositif existe toujours. Mal, mais il existe toujours.
C'était le 3e épisode des tables rondes du congrès du SNAP-CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.